Pour cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Un mot trop, et c'est un mot qui va me rendre.
Les flics tabassent, sortent le P38 et les flics qui flinguent de classe.
Les flics, la police, les flics.
Et par des keufs se font paner, c'est connu, dans le Parisien t'as que des histoires comme as.
La route du guette, mec, les flics aussi.
Moi du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand un frère meurt. Pour eux, un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans voir quoi.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Le Numéro Zéro sur Radio Dio, 89.5 FM, un jeudi sur deux à midi et rediffusé à 17h. Donc vite fait, l'émission Le Numéro Zéro, c'est un média alternatif et participatif. Ça veut dire que l'info, vous la vivez et ben vous pouvez la raconter vous-même. Donc tout ça par l'intermédiaire d'un site internet dont je rappelle l'adresse. C'est http://lenumero0.l'autre.net. Voilà, lenumero0.l'autre.net, tout attaché, sans accent. Voilà, et donc c'est aussi un bulletin papier de temps en temps qui reprend les articles qui ont été publiés sur le site par vous-même. Et c'est aussi donc une émission de radio un jeudi sur deux. Voilà, donc aujourd'hui, de quoi on vous parle jusqu'à 13h? Un peu de brève du désordre, ça faisait longtemps, ça manquait, pourtant c'est toujours le désordre. Ensuite, une interview qui parlera du peuple mapuche au Chili, de leur situation et de leur lutte. Et pour finir, on présentera un peu les anarchistes contre le mur, qui sont des Israéliens qui se mobilisent contre les pratiques de leur gouvernement et qui seront présents mardi à Saint-Étienne pour nous parler de tout ça. Voilà, donc écoutez, dans quelques secondes, vous retrouverez les brèves du désordre.
Et passons à présent aux brèves du désordre local, celles du mois de juillet dernier. En effet, chaque jour, généralement dans la rubrique Faits divers, la presse locale rencontre des actions des combattantes invisibles de l'anti-France et de leurs déboires. Et souvent, il n'est même pas besoin de savoir lire entre les lignes pour les apercevoir. Commençons par cette activité si particulière qui consiste à produire des ruines et des cendres. Le 3 juillet, la préfecture de la Loire livre les chiffres du nombre de voitures brûlées pour les 6 premiers mois de l'année. Il y a un net progrès par rapport à l'année dernière. 300 véhicules ont été incendiés, soit plus de 70 de plus par rapport à l'année 2008. On rappelle au passage qu'il y en avait eu au total 230 de cramés en 2008 et 780 en 2007. Lundi 6 juillet commence 3 jours et 3 nuits d'émeutes à Firminy. Au départ, Mohamed, 21 ans, habitant le quartier de Firminy-Vert, est suicidé dans sa cellule de garde à vue au commissariat du Chambon-Feugerolles. Il est hospitalisé, mais il mourra le lendemain. Malgré les appels au calme, de la famille de Mohamed notamment, et de la présence de plus de 200 flics et de 130 policiers, les affrontements avec les CRS, les incendies de voitures, de poubelles et les attaques de bâtiments publics et de locaux commerciaux se succèdent entre le lundi soir et le mercredi soir. Donc, au total, au moins une cinquantaine de voitures incendiées, les locaux du Resto du Cœur et tout le centre commercial du Mail sont complètement détruits. Ont également été attaqués le château des Bruneaux, les acédiques, le centre d'animation et bien d'autres bâtiments encore. Les flics ont fait au moins 15 arrestations avec à la clé, entre autres, une personne en prison à La Tallo, une condamnation avec sursis et deux mineurs sous contrôle judiciaire. Quelques plus jours plus tard débutent les festivités du 14 juillet. Les pompiers annoncent que entre le 10 et le 16 juillet, ils ont recensé 46 voitures et des dizaines de feux de poubelle dans toute la Loire. Il faut noter que ce bilan ne tient pas compte du résultat des émeutes de Firminy. Saint-Étienne, ville, a été très active dans la Loire, et particulièrement dans les quartiers de Bellevue, La Rivière, à Montau, à Montrénault, et aussi au Soleil. Et on ne cesse de le répéter, mais la lutte armée paye toujours un peu. Ainsi, le 30 juillet, Courforiel, un motard de la police municipale freine, mais le véhicule qui le suit est surpris et le percute par l'arrière, envoyant le flic à l'hosto pour une blessure au genou. Et pour finir, passons par le merveilleux monde du travail et de ses petites vicissitudes. Un été assez chaud, puisqu'il y a une multiplication de grèves et de mouvements sociaux dans les usines, notamment. À Saint-Romain-le-Puy, les salariés de l'usine Paro, qui conditionnent de l'eau en bouteille, vont mener une grève partielle du 15 au 25 juillet. La grève est partielle car il et elle débraye une heure par jour et par poste, comme il y a trois postes au total pour la production, cela équivaut à 3 heures d'interruption par jour. Le but est d'obtenir une augmentation de salaire de 3,3% au lieu des 2,3% que propose la direction. Finalement, au bout d'un mois et demi, elles obtiennent 2,9% d'augmentation. Le 1er juillet, à Saint-Nizier-sous-Charlieu, les salariés qui fabriquent des grues de chantier pour l'entreprise Manitowoc, anciennement Potin, se mettent en grève. Ils et elles viennent d'apprendre que 50 postes vont être supprimés et une partie de l'activité va être transférée en Italie. Il faut dire que ce printemps, il y avait déjà eu 135 postes de supprimés. Là aussi, la grève est tournante et toutes les 2 heures, des équipes se relaient pour bloquer les entrées et les sorties du site. La revendication principale est que la fabrication des grues soit maintenue sur place. Le 27, un accord est trouvé entre la direction et les syndicats qui assurent que, au moins jusqu'en 2010, l'activité restera à Saint-Nizier-sous-Charlieu. Le 29 juillet, un accident du travail mortel à Mably, près de Rouen, dans l'entreprise de Calorie Float qui fabrique du vitrage isolant. Un homme de 24 ans, intérimaire, manipule le sol et sans chariot élévateur, un pupitre et son chargement de vitrage, soit plusieurs centaines de kilos. Le matériel bascule et lui tombe sur la tête. Il est hospitalisé en urgence, mais il meurt le lendemain. Voilà, c'est fini pour cette fois. On se retrouvera les brèves très bientôt. Mais en attendant, n'oublions pas que tout ça, ça arrive près de chez nous.
Et voilà, donc maintenant nous allons enchaîner avec l'interview de Julia. Donc Julia, c'est une personne qui vit en territoire mapuche au Chili et qui est venue le 10 septembre passer une soirée à l'immeuble occupé, au 10 avenue d'Enfer Rochereau, voilà, où elle présentait un film sur la situation et les luttes des mapuches au Chili. Et voilà, un petit débat a été proposé, on en a profité pour l'interviewer, et donc tout ça est bien mieux expliqué dans cette interview que vous allez écouter tout de suite.
Wai miniei mi kinapa winka, amutu mi peigni chuchu mi chuchu mi la wenni wite. Wai miniei mi puli. La aguenta.
sommes ce soir le 10 septembre 2009 et nous sommes au bâtiment occupé 10 avenue d'Enfer Rochereau à Saint-Étienne. Et ce soir, il va y avoir une soirée sur la lutte des Mapuches au Chili et la répression aussi à laquelle ils font face, avec Julia qui est venue un peu pour nous parler de tout ça. Donc, bonsoir Julia.
Salut.
Bah, déjà, est-ce que tu peux nous dire qui sont les Mapuches ?
Les Mapuches, c'est un peuple originaire du sud de l'Argentine et du Chili, et qui ont la particularité dans leur histoire d'avoir résisté à l'invasion européenne et en particulier espagnole au début de leur arrivée sur le continent. À un tel point qu'ils ont même signé en fait avec les Espagnols des traités de paix internationaux, qui étaient reconnus par la couronne espagnole et qui reconnaissaient et délimitaient en fait un territoire autonome qui leur appartenait avec des frontières et tout ça, et puis des et qui permettaient aussi en fait d'arranger les relations entre la couronne espagnole et les Mapuche quand il y avait un litige entre les deux nations. Et donc ce peuple-là, il a surtout il s'est fait envahir en fait par en fait l'État argentin et l'État chilien au moment de leur création, au moment où ils se sont indépendantisés de la couronne espagnole justement. Et puisque c'était des nations qui commençaient à avoir des besoins économiques importants, donc c'était tout le développement du capitalisme à l'époque sur place, ils vont devoir envahir et massacrer les Mapuches. Ils vont faire carrément un génocide. Ils vont en tuer la moitié et puis occuper leur territoire petit à petit en recourant à l'immigration européenne. Et donc on est en train de parler de 1883 quand tout ça arrive en fait, pour de vrai.
Du coup, comment on passe de ça à la situation de maintenant? Et tu peux peut-être nous faire un petit topo sur la loi indigène?
Oui, alors moi j'ai jamais été très forte ni avec les chiffres ni avec les lois. Mais en gros, l'histoire de la loi indigène, il existait déjà une loi indigène avant la dictature, donc qui autorguait, c'est pas français, qui donnait un statut spécial tant au peuple mapuche, au peuple originaire en général au Chili, et puis par rapport à leurs terres, qui tentaient de préserver un petit peu en fait ce qui leur restait. Et notamment, pour la petite parenthèse, sous Allende, donc sous le gouvernement d'Allende qui n'a pas duré longtemps, il y a eu justement des tentatives de rendre une partie des terres qui ont été spoliées aux Mapuche. Il faut savoir, du coup, quand même, je connais quelques chiffres, il m'en reste quelques-uns. En fait, quand pour la partie du territoire Mapuche qui était au Chili, les Chiliens vont leur piquer à peu près 90% de leur territoire, c'est-à-dire que sur 5 millions d'hectares, il va leur en rester que 500 000, quelque chose comme ça. Et donc, sous Allende, ils vont leur en rendre à peu près 300 000 hectares. Donc ça, c'était déjà des tentatives de rétablir un petit peu un équilibre. Bon, sauf que Allende ne le faisait pas forcément parce qu'ils étaient Mapuche, mais du coup, c'était pour les petits paysans, en créant aussi des coopératives et tout ça. Et puis après arrive la dictature, donc Pinochet élimine la loi indigène de l'époque, fait disparaître parmi tous les disparus qu'il y a eu sous la dictature environ 300 dirigeants Mapuche, et puis fait la chasse à toute organisation, toutes les organisations militantes de toute façon. Et puis à côté de ça, c'est Pinochet aussi qui va commencer à favoriser toute l'expansion des grosses entreprises forestières à l'époque, et notamment les inversions forestières en fait sur le territoire Mapuche. Et donc, bon, revient un semblant de démocratie. Donc, on est en train de parler de 89. Et quelques années après le retour de cette démocratie, il y a une nouvelle loi indigène qui est créée, qui n'est pas non plus un énorme progrès, mais qui tente de remettre en place une espèce de politique spéciale pour les peuples originaires, donc, dont les Mapuches, et qui prétend protéger leurs terres. Et par exemple, les Mapuches ne peuvent pas vendre leurs terres à quelqu'un qui ne soit pas Mapuche, ils ne peuvent pas l'hypothéquer, ils ne peuvent pas... Et puis ils sont censés leur reconnaître aussi un statut spécial sur leur propre territoire. Mais bon. Après, à côté de ça, en fait, parallèlement à la création de la loi indigène, c'est ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est la création de la CONADI, qui est une espèce d'administration chilienne qui dépend de l'État, et qui doit spécialement s'occuper en fait des peuples originaires, dont justement le problème des terres, et puis au niveau des lois, comment ça se passe pour tout ça un petit peu en général, mais bon, c'est tout, tout depuis en fait l'État chilien et pas du tout depuis les intérêts, les revendications en fait, des Mapuches.
Les multinationales continuent de pouvoir travailler et même s'approprier quand même des terres Mapuches.
Ouais, de toute façon, le territoire Mapuche aujourd'hui, il est complètement... du coup, pour reprendre ce que je disais avant, les 300 000 hectares qui ont été donnés par Allende de nouveau aux Mapuche, évidemment, ça, je ne l'ai pas redit, mais Pinochet les reprend. Donc, du coup, on en est encore à seulement 500 000 hectares pour la partie chilienne de leur territoire d'origine. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, enfin, leur territoire est complètement occupé par des agriculteurs qui sont des descendants directs des colons de l'époque, qui sont arrivés après 1880 quelques, et par des entreprises, et donc beaucoup des entreprises forestières en fait. Quand on se balade dans les communautés, on se rend compte que les communautés au jour d'aujourd'hui, c'est des maisons isolées et elles sont complètement entourées par des plantations de pins et d'eucalyptus. Et effectivement, de toute façon, il y a encore et toujours de nouveaux projets capitalistes qui continuent à envahir en fait ce qui leur reste de terre. C'est comme, par exemple, l'histoire du barrage de Ralco, qui est dans les Andes, où on a clairement, encore une fois, une expropriation en fait, du peu de terre qui leur reste et du coup un déplacement de la communauté, puisque le barrage de Ralco a inondé des centaines et des centaines d'hectares. Donc du coup, ils ont dû reloger des gens sur des terres qui étaient encore plus mauvaises, où il n'y avait pas d'eau, et comble de l'histoire, c'était un barrage pour faire de l'électricité, donc. Et ils ont été relogés sur des terres qui étaient aussi sans électricité. Ils sont restés sans électricité pendant 3 ans. Donc de toute façon, il y a continuellement des projets en fait, qui continuent à les déporter toujours un peu plus loin et sur des terres toujours plus mauvaises.
J'imagine que l'usage de la terre n'est pas du tout le même selon que c'est les Mapuches qui sont sur ces terres et ce qu'ils en font, ou que c'est des compagnies forestières, gros agriculteurs qui les occupent. J'imagine que ce n'est pas du tout le même rapport à la terre, la même manière de l'exploiter, d'y vivre.
Non, on a très clairement d'un côté une espèce d'agriculture intensive quand c'est les entreprises forestières ou les agriculteurs, donc bon, et puis polluante et tout ce qu'on veut, quoi, comme on l'aime bien. Et puis les Mapuches, effectivement, de toute façon, ils ont un rapport à leur terre qui n'est pas seulement non plus forcément une terre aussi comme pour avoir un rendement productif, puisque eux, ils ne parlent pas seulement de leur terre, mais seulement de leur territoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un espace géographique, il n'est pas seulement destiné à de la production agricole, sinon qu'il y a des espaces sacrés, il y a des espaces collectifs de rencontre, il y a des espaces... de toute façon, effectivement, l'agriculture qu'eux, ils peuvent faire aussi, c'est plus une agriculture de subsistance.
Orgullosos por lo que fuimos, por lo que somos, y por lo que seguiremos siendo si no nos rendimos. Si no nos rendimos ante el genocidio galopante que avanza pasos agigantados sin medir consecuencias. Si no nos rendimos ante tanta maquinaria aniquiladora de sueños, de esperanzas. Si no nos rendimos ante el imperio del despojo, de la usura y de la muerte. ¡Ya, ya, ya!
Hace más de 500 años... Face a ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'arrive à faire Mapuche, ou qu'est-ce qui essaye de faire... Les communautés, les Mapuches, tout ça.
Et ben, de récupérer leurs terres. Et du coup, ça se passe de différentes manières. Mais par exemple, quand c'est sur les terres d'un agriculteur, ils essaient de rentrer et de ne pas en bouger. Mais en général, quand c'est sur les terres même d'un agriculteur, les affrontements sont bien souvent... arrivent immédiatement, en fait. Et donc, il y a des affrontements et puis ils se font déloger. Donc ils y retournent en fait, ils y retournent jusqu'à ce qu'il y ait une des deux parties qui se fatigue. Et quand c'est une entreprise forestière, en général ils rentrent et puis ils commencent à couper les arbres tout simplement dans l'idée de pouvoir cultiver la terre l'année suivante. Mais bon, c'est pareil, il y a aussi des affrontements très vite avec, avec la police. Et puis bon, bah après, il y a toujours les histoires de couper les routes, enfin les manifs, mais les récupérations de terres même, l'idée c'est de rentrer et de plus en bouger en fait. Et si on se fait s'ils se font déloger, ben ils rentrent de nouveau et puis ça continue comme ça. Effectivement, il peut y avoir des, comme ils le faisaient avant en fait, plus pendant la dictature et avant, quand ils rentraient sur des terres, c'était plus des récupérations de terres symboliques, c'est-à-dire qu'ils rentraient, ils faisaient une cérémonie sur la terre et puis ils prévenaient les médias. Et effectivement, c'était une manière de le revendiquer officiellement et puis de ne pas s'affronter avec la police. Et puis, c'est pas aussi qui est marqué après la dictature, c'est qu'à un moment donné, ils rentrent sur les terres et l'idée, c'est de plus en bouger. Donc, évidemment, il y a des communiqués de presse qui sont faits et tout, mais l'idée, effectivement, ça peut être ou que le gouvernement, donc, par la CONADI, décide de faire une proposition au propriétaire pour lui acheter ses terres et de les acheter à la communauté. Mais ça peut aussi être directement l'idée qu'il n'y a rien à demander à personne parce que ces terres sont vraiment mapuche et du coup, il n'est pas question que quelqu'un passe des sous ni à l'entreprise ni à l'agriculteur. Ces terres, on va y rester parce qu'ils vont y rester parce qu'elles sont à eux, vraiment, quoi. Près de là où j'habite, près du lac Géougéou, à Tiroa, c'est une communauté où ils ont récupéré des terres de cette manière-là, quoi. C'est des centaines d'hectares d'une entreprise forestière où l'entreprise n'y met plus les pieds parce que finalement elle perd plus d'argent à essayer de déloger les Mapuches que finalement leur laisser. De toute façon, ils en ont des milliers, des milliers, des milliers d'hectares. Donc finalement, c'est laissé comme ça, quoi. Qu'est-ce qui est fait aussi comme action directe de la part des Mapuches à part rentrer sur les terres pour les récupérer? Par exemple, il est tout à fait... c'est quelque chose de super commun, par exemple, d'aller sur ces entreprises forestières et de les cramer, par exemple. Et du coup, ça peut être pour appuyer une récupération de terre ou pour dénoncer une répression. Ou pour ça, c'est le truc super commun, quoi.
Territoire mapuche, comme en ville par exemple, il y a un soutien ou aussi des actions qui se font par des mapuches ou en soutien aux mapuches.
Ouais, il y a des réseaux de soutien en ville, ouais. Mais après, ce qui se fait depuis la ville, c'est plus les actions, des actions de soutien comme des manifs ou des soirées, des choses comme ça. Mais après, et c'est aussi un débat d'ailleurs pour les Mapuches, c'est que a priori il y a un appel qui est fait justement aux Mapuches de la ville à être aussi à la campagne, puisque leurs terres elles sont tout ça c'est plus à la campagne qu'en ville. Donc à un moment donné, est-il plus efficace en fait de retourner à la campagne pour défendre et récupérer des terres ou de faire un soutien en ville ou Enfin, du coup, c'est hyper limité ce qui est possible de faire en ville aussi, quoi.
C'est plutôt symbolique, en fait.
Ouais. Après, bon, à part des actions... Parce qu'au Chili, d'une manière générale, aussi, c'est pareil. L'action dans la rue est en général costaud. Enfin, depuis toujours au Chili. Donc, il y a aussi des fois où ils peuvent sortir en ville, couper la route. Et puis, donc, du coup, voilà, la réprime qui tombe encore, les affrontements. Mais ça permet... Ça permet effectivement de faire bouger les médias et puis de faire parler du truc, quoi.
El caballo va por su pueblo peleará. La sangre de Winca va a correr porque vamos a vencer. El guerrillero mapuche ha llegado y por su pueblo la vida ha entregado. Honrando a nuestros guerreros volveremos a luchar.
Libertad o muerte, libertad o muerte. Por los presos mapuches, por toda nuestra gente. Libertad o muerte.
no lo podemos ver. Nuestros ojos están cegados porque el Winca los ha vendado. Al galope de un caballo, nuestro Nehuen ha despertado. Acompañemos a nuestros hermanos, no podemos estar callados. Libertad o muerte, libertad o muerte, por los presos mapuches, por toda nuestra gente. Libertad o muerte, libertad o muerte, por los presos mapuches, por toda nuestra gente. Nuestros presos dan la lucha y su pueblo escucha. Vamos todos a la calle, que la ira estalle. El conflicto ya está armado, el Winca está amenazado. El cultul está sonando y el mapuche ha despertado. Libertad o muerte, libertad o muerte, por los presos mapuches, por toda nuestra gente. Libertad o muerte, libertad o muerte, por los presos mapuches, por nuestra gente.
Bah, en termes de répression, du coup, qu'est-ce qui se passe? Qui sont les agents de répression? C'est quoi la réponse de l'État?
Elle est multiple. Bah, la répression, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, c'est la militarisation des différentes communautés qui ont commencé à vouloir récupérer des terres. C'est-à-dire que, par exemple, sur les propriétés des agriculteurs où les Mapuches revendiquent leurs terres, c'est une protection policière 24 heures sur 24. Dans les entreprises forestières, comme sur le lac Yehou Yehou, c'est des campements de flics installés aussi directement au milieu des pins et des eucalyptus pour veiller au calme sur la propriété de la multinationale. Et puis après, c'est toute l'histoire des procès, des emprisonnements et des montages judiciaires. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, ils continuent, pour emprisonner les Mapuches, ils continuent à utiliser une loi qui est héritée de la dictature, qui sur la sécurité intérieure et sur les lois antiterroristes, qui permet, par exemple, de faire intervenir des témoins anonymes qui, dans les procès, apparaissent cachés derrière un rideau avec la voix complètement transformée, et en plus ils sont payés, et personne n'a accès à l'identité de ces supposés témoins, ce qui permet en fait de faire tout un tas de montages policiers pas possibles, en sachant évidemment qu'après toute la chaîne des preuves est aussi fausse, puisque en fait tout ce qui est, par exemple dans le cas de, jusqu'à maintenant ils ont tué 3 jeunes Mapuches dans des récupérations de terres, et à chaque fois c'est toute une histoire, parce que les médecins qui révisent, qui regardent en fait les corps des Mapuches assassinés, il y a toujours 15 rapports différents qui sont pendus, avec des théories différentes, selon aussi ce que dit la police en civil, les gendarmes, etc., etc. Il y a plus d'une centaine de Mapuches qui ont été emprisonnés jusqu'à maintenant. Au jour d'aujourd'hui, il en reste à peu près 45 dans les prisons. Et donc plusieurs d'entre eux ont été condamnés sous les lois antiterroristes. Ce qui fait que pour des délits, en fait, après dans la pratique, c'est que pour des délits, ils sont condamnés à des peines qui sont doublées. Donc il y a des gens aujourd'hui qui sont en prison pour 10 ans. Et pour ils sont accusés de quoi? Ils sont accusés, par exemple, d'avoir brûlé une propriété. Mais pour un truc comme ça, alors que c'est une propriété privée, ils sont condamnés sur la base des lois antiterroristes sur la sécurité intérieure du pays. Donc, en fait, ça ne devrait pas pouvoir être appliqué, puisque normalement, elle est appliquée quand c'est quelque chose de bien public qui est attaqué. Donc, ce n'est pas le cas dans le cas des entreprises forestières. Mais donc, pour avoir brûlé quelques hectares de forêt, ben, ils peuvent prendre 10 ans, quoi. Alors que c'est que normalement, dans la législation, un délit, quoi, un simple délit. Et donc à part ça, voilà, là aujourd'hui il y a 45 Mapuches prisonniers, il y a 3 jeunes assassinés pendant des récupérations de terres dans des conditions qui sont absolument troubles, et à chaque fois les flics plaident la légitime défense, mais en réalité ils ont tous été abattus dans le dos, quoi. C'est-à-dire quand ils se repliaient en fait, au moment où ils s'en allaient, c'est-à-dire pas du tout au moment des affrontements. Et puis voilà, et puis après c'est tous les cas de torture, les cas de pression psychologique, les perquisitions qui se font de manière systématique dans les communautés, supposément pour chercher des clandestins, pour n'importe quelle raison que ce soit, quoi.
Quand même, ces entreprises, elles utilisent les techniques qui sont souvent utilisées par les entreprises dans ce genre de conflits, milices, paramilitaires.
Oui, et bien là, justement, il y a eu de nouveau, on entend parler... là-bas du commando Trissano, Donc le commando Trisano, c'est une espèce de groupe paramilitaire qui a commencé à faire parler de lui en 2002 à peu près. Et qui, pour la petite histoire, Trisano, c'est le nom d'un général qui était un général espagnol, si je ne me trompe pas, qui était connu à l'époque pour son extrême cruauté envers les Mapuches, dont il coupait les oreilles. Et donc ce groupe paramilitaire aujourd'hui revendique très clairement l'autodéfense, si ce n'est pas l'agression directe en fait des Mapuches aujourd'hui, et qui a comme proposition politique, qu'il a d'ailleurs répété il y a très peu de temps dans un journal au Chili, sa solution pour le conflit Mapuche, c'est par exemple d'envoyer les Mapuches dans le nord, par exemple, dans un camp où on pourrait leur donner de la bouffe et des vêtements de temps en temps, parce que finalement ça coûterait moins cher que le résultat de leurs actions, et entre autres aussi l'achat des terres. Donc voilà, donc il a refait parler de lui il n'y a pas longtemps, il s'était un petit peu effacé, il a reparlé de lui il n'y a pas longtemps, donc en revendiquant de nouveau en fait l'attaque aux Mapuche pour se défendre de leur récupération de terre, et en menaçant très clairement en fait quelques dirigeants Mapuche de mort, et en disant par exemple, en tenant des propos du style de toute façon s'ils continuent à faire ce qu'ils font maintenant, on leur mettra de la dynamite dans la ceinture. Et donc il a nommé quelques dirigeants avec leur nom de famille, le lieu où on les trouve et tout ça. Donc c'était des menaces très claires. Et pour contextualiser ça, il faut savoir que c'est bientôt les élections au Chili, et que bon, tout le monde sait à peu près que c'est certainement la droite qui va passer. Et quelques temps après la dernière déclaration du commando Trisano cet été, est mort le troisième, et a été assassiné le troisième Mapuche dans une récupération de terre. Donc en fait, tout ça correspond complètement. Mais une des actions en fait aussi du commando Trisano, parce qu'après quand ce commando-là agit, il ne revendique jamais après ses actions, mais en fait on sait très bien que c'est ces gens-là qui font ces choses-là. Par exemple, il y a un avocat il y a quelques années qui défendait les Mapuches accusés par la justice et qui a été victime d'un attentat à sa bagnole. Ils lui ont explosé sa bagnole, et puis qui a aussi reçu des lettres de menace de mort à sa famille et tout ça. Donc après le truc qui est complètement incroyable, c'est que eux, ils pourraient tout à fait tomber sous le coup des lois antiterroristes en fait au Chili. Mais la réaction du gouvernement et de la police, c'est de dire qu'en fait le commando Trisano n'existe pas, que c'est seulement quelques allumés qui font des petites déclarations de temps en temps, mais qu'en fait que ça n'existe pas, quoi. C'est donc on n'en parle pas, les rapports de la police d'investigation, la police en civil, disent qu'ils n'en trouvent aucune trace, quand ils ont commencé à faire leur première déclaration en 2002, il y avait aussi une liste de noms en fait de gens qui se réclamaient de ce commando-là, quoi. Et on sait très bien qui ils sont. C'est en général, c'est des gros patrons d'entreprises forestières et les agriculteurs justement les plus à droite. Donc voilà. Donc là, ils sont en train de se regrouper certainement parce qu'ils sentent que politiquement, ils vont avoir de plus en plus de force maintenant que va passer la droite, quoi. Effectivement profiter de ma venue en France pour essayer de dénoncer un petit peu ce qui se passait là-bas. Bah, avant de dénoncer, déjà expliquer un petit peu la situation des Mapuche qui n'est pas du tout connue ici, et expliquer leur résistance, et puis donc dénoncer la répression chilienne. Donc, je suis en France pour parler de tout ça, et puis essayer de effectivement éventuellement de trouver du soutien, même si c'est compliqué de le faire d'ici, mais... Ceci dit, sur la question, il existe des groupes de soutien en France déjà aux Mapuche. Il en existe d'ailleurs dans plusieurs pays d'Europe, mais c'est des petits groupes qui font ce qu'ils peuvent, qui ne sont pas nombreux, et sur des coups spécifiques essaient de donner leur appui, ou essaient de faire des actions de dénonciation aussi ici en France, quoi. Que ce soit par des manifs ou des actions à l'ambassade. Et du coup, mais du coup, après, ce que, voilà, après, ce que je peux dire pour enchaîner là-dessus, c'est que, avant de, puisque dans la communauté où je vis, il y a maintenant une quinzaine de prisonniers. Donc, j'ai pu parler un petit peu avec les prisonniers de ma communauté avant de venir. Et une des idées qui était faite, éventuellement, qui pourrait s'imaginer d'organiser peut-être un voyage d'observateur, comme ça existe pour la Palestine ou au Mexique, ou dans l'idée de pouvoir aller là-bas et de pouvoir peut-être être là comme témoin de la répression et peut-être freiner certaines répressions aussi. Et puis, et du coup, ce serait... Oui, effectivement, après, ramener l'information ici. Mais en tout cas, rien que le fait d'aller là-bas et d'y aller comme observateur, justement, de la répression, de la résistance mapuche, c'est déjà une sacrée épine dans le pied du Chili, puisque jusque-là, le Chili, à chaque fois qu'il y a des étrangers qui sont un petit peu trop près des mapuches, pour la raison que ce soit, même dans mon cas, alors que moi, j'y suis pour des raisons familiales, et ben ça les emmerde, et en général ce qu'ils font c'est que c'est l'expulsion directe, la déportation, retour au pays, on n'en parle plus et c'est fini. Donc qui est clairement un groupe d'observateurs étrangers qui viennent pour ça, et ben ça serait vraiment chiant pour le Chili, puisqu'en fait ils font tout justement pour qu'il n'y ait pas d'information. Si aujourd'hui en France il n'y a pas d'information, c'est aussi parce que le Chili a verrouillé complètement toute l'information. Il sort très peu d'informations du Chili sur toutes ces choses-là. En français, il existe un site internet qui s'appelle Mapuche, c'est www.mapuche.free, quelque chose comme ça. Et donc c'est un site qui est quand même relativement bien actualisé, et puis qui, avec toutes les traductions d'articles ou des résumés d'événements qui se passent là-bas. Donc en français, c'est le plus simple. Et puis après, en espagnol, il y a plusieurs sites d'informations mapuche, Quilapan, Weftoun, Red Chem, ah, ça s'écrit R-E-D-C-H-E-M, ou Pais Mapuche.
On peut aussi aller sur le site du numéro 0 où il y a l'article concernant cette soirée et sur lequel on peut retrouver la déclaration, ton témoignage, et à la fin duquel on retrouve tous les liens concernant la lutte mapuche.
Liberar, liberar al mapuche por luchar. Liberar, liberar al mapuche por luchar.
Se ha levantado la voz del pueblo que creyeron enterrado. De que el pueblo, que el gobierno, tanta sangre derramado.
Ha sido duro aguantar
la discriminación que nos han dado, tratándonos como indios ignorantes y como esclavos. Frente a eso, en este momento nos levantamos en acción para defender nuestra nación mapuche de toda esta aberración de reducción de tierras, presos políticos y sangre derramada.
Pero aún y con eso mi pueblo se rendirá ante nada.
Preparados estaremos como un escudo frente al sistema, tan fuerte como un roble frente a todos los problemas. Porque la sangre guerrera que corre por nuestra vena dan que nuestro pueblo mapuche liberemos de estas cadenas. Así que escucha, gobierno, que con represión y golpe no nos detendrán. Ya que estén nuestras cabezas sometidos al sistema, no lo lograrán. Y aunque chilenizarnos y quitar nuestra tierra siempre ha sido su afán, pero hacer que olvidemos nuestras raíces y cultura jamás podrán. Porque siempre llevaremos
el símbolo en nuestros corazones.
Que la Meli Huicha Mapu nos da motivos y razones para mantener la frente en alto y decir siempre con orgullo que somos nación mapuche y una etnia perteneciente al estado tuyo. No se dejará intimidar frente a tus falsas acusaciones de terrorismo por defender lo más sagrado, nuestras posesiones. Que la madre tierra que nos entrega la fuerza y la sabiduría, y por ello pelearemos hasta el final por obtener nuestra autonomía.
Por nuestra autonomía.
A todos nuestros antiguos guerreros y nos levantaremos. Ellos guiarán nuestro Weichan, por eso siempre venceremos. Luchando con el honor de los mapuche guerreros, volverá a correr por esta tierra la flecha ensangrentada. Y huele a complot al que tu aita en llamada. En nuestro caminar a las estrellas seguiremos, nunca moriremos. Marichueo, 10 veces venceremos. Huicha tu ainta ingo y vi Weichan, bupe ni por amén. Inchinen tu ainta ingo y vi Weichan e wen. When you twine time, chuck and wake it, but you will know the guy. Female, well, my boy, but they will give me a wine. Liberar
ta in pe gita in la mien wirar wa in li kan klila ya in winyo wa itra twa in winyo trapen twa in ta in ma puche rapo an ay tami kui vima puche ni al trepele ay felepe mai
liderat, liderat ay ma puche por luchar liderat, liderat ay ma puche por luchar liderat, liderat ay ma puche por luchar liderat, liderat ay ma puche por luchar
Ula Mien, es hora de volver a nuestras tierras de darle opresión al gobierno Winca Tregua con engaño y violencia ha usurpado tierra nuestra haciendo abuso de poder a diestra y a siniestra ya basta que la Inmapu quede en manos de empresarios que cada día más se hacen poderosos millonarios instalando hidroeléctricas y forestales queremos término a los abusos y usurpaciones territoriales están matando a nuestro añuque Mapu con deforestación asfixiando a nuestro pueblo con el poder de dominación con nacionalización no existirá pacificación así como nos arrasaron así será la liberación por la razón o la fuerza como ustedes actuaremos y al poder dominante la mano le torceremos somos un pueblo milenario que defiende su cultura protegiendo nuestras creencias el cristianismo y la oscura que tergiversa nuestra historia y relatos ancestrales para hablar de engaño del Estado que dice que todos somos iguales disfrazando lo que es nuestro como oportunidades no queremos más migajas ni soluciones falsas a los problemas reales problemas como leyes baratas que hablan de derecho y igualdad cuando solucionaron los problemas políticos indígenas no son de su prioridad creemos más en sus relatos ni discursos que dicen puras mentiras no aguantaremos más esa forma reducida a las que nos obligan son las palabras de un pueblo que seguirá batallando porque para un mapuche la única derrota es no seguir luchando Huitañanay Pula Mien Ilchiñe Ilfentenehuen
Voilà, donc je rappelle que ce que vous venez d'écouter, c'était l'interview de Julia, qui vit en territoire Mapuche, au Chili, et qui racontait un peu ce qui se passait là-bas. Donc vous êtes toujours à l'écoute de l'émission numéro 0 sur Radio Dio, 89.5 FM à Saint-Étienne. Et on continue jusqu'à 13h, on va parler un peu de choses qui vont se passer à Saint-Étienne et qui nous semblent intéressantes.
Et on commence, on continue toujours avec les étudiants passage de la fac qui font encore des leurs. On rappelle quand même vite fait, vous en avez pas mal entendu parler dans le numéro zéro notamment, que pendant tout le printemps 2009, il y a eu la plus longue grève de l'histoire de l'université de Saint-Étienne, avec tout un tas d'occupations, de blocages, d'actions, etc. Tout ça pour la lutte contre la loi LRU et que dans ce cadre-là la direction n'a cessé de mettre des bâtons dans les roues de ces étudiants grévistes et la dernière action en date de cela a été de convoquer 9 étudiants en conseil de discipline à la rentrée là. Donc il y a déjà eu des rassemblements de soutien etc. et il y a deux événements très bientôt. Le premier se passera au cours d'une soirée de soutien pour ces étudiants, ces 9 étudiants grévistes. Ça va se passer donc au squat, à la maison occupée, à l'immeuble occupé du 10 avenue d'Enfer Rochereau. Alors une soirée dans laquelle il y aura des projections, des discussions, des lectures subversives et des discussions de l'organisation, tout ça. Donc voilà, ça se passe vendredi 25 à partir de 18h30 au 10 avenue d'Enfer Rochereau. Et le deuxième événement sera le jour du conseil de discipline, c'est-à-dire le 28, lundi 28 à partir de 13h30. Ça va commencer par un pique-nique et puis après toute la journée, ça sera improvisé, mais ce sera très subversif aussi. Et voilà, ce sera devant la maison de l'université rue François Bollier le 28 à partir de 13h.
Et tant que j'y pense, il se passe autre chose vendredi, donc ça va être peut-être difficile de choisir. Il y a un local associatif qui s'appelle La Rage Dedans, qui a ouvert en face de la fac, au 54 rue du 11 novembre. Et ils font leur inauguration officieuse, et c'est vendredi soir aussi. Ce sera avec des mix et un petit bar associatif. Voilà. Et c'est ouvert quasiment tous les jours à partir de 16h. Et au moins jusqu'à 19h. Donc c'est La Rage Dedans, en face de la fac, au 54 rue du 11 novembre. Maintenant, on va passer à ce qui va se passer mardi.
Ouais, on va particulièrement annoncer du coup cette soirée qui se passe toujours à l'immeuble occupé, avenue d'Enfer Rochereau, à Saint-Étienne. Et du coup, mardi, il y a une soirée débat-projection en soutien aux anarchistes contre le mur, avec la présence d'un militant du collectif. Du coup, c'est au squat, c'est à 8h30. Et moi, je tenais particulièrement à l'annoncer, parce que du coup, je me suis renseigné un petit peu, et ils font un super chouette boulot, que je vais vous présenter. Et aussi particulièrement, parce que c'est une soirée organisée par le numéro zéro. Alors, petite présentation du coup du collectif Anarchist Against the Wall. Alors, je vais commencer par quelques infos que j'ai trouvées sur leur site. Quelques infos ordonnées un petit peu, type genre bref du désordre. Vendredi 29 août, à Biline, manifestation contre la clôture de séparation érigée par Israël. La manif est réprimée par l'armée. En réponse aux lacrymos, des pierres sont jetées et des pneus brûlés. S'ensuit 3 heures de confrontation. Dimanche 31 août, manifestation d'une dizaine de paysans de Bidu, petit village palestinien au nord de Jérusalem. Ils manifestent contre le fait que l'armée continue à les empêcher de travailler en leur limitant l'accès à leurs terres. Lorsque la manif atteint la barrière de séparation, les portes de la clôture sont vivement secouées jusqu'à ce qu'elles cèdent. Vendredi 4 septembre, toujours à Biline, lors de la manifestation hebdomadaire, un photographe palestinien et un activiste israélien sont blessés par un éclat d'obus de l'armée israélienne. Vendredi 11 septembre, manifestation d'habitants et d'habitantes des villages de Tirkadis et Karbata contre les blocs de béton placés au travers des deux routes principales. Des panneaux de signalisation au nom des colonies israéliennes voisines sont jetés à terre. Des voitures de colons passant par là sont accueillies par des cris et quelques jets de pierre. Au même moment, du centre de Biline démarre une manifestation contre le mur. Arrivés à proximité de la clôture, des slogans sont criés tels que « Non au mur, non à l'occupation, nous voulons la paix ». Un drapeau palestinien est accroché sur la clôture et face aux grenades assourdissantes et aux gaz lacrymaux, des pierres sont jetées en direction des jeeps de l'armée. Vendredi 18 septembre, à Biline, toujours, manifestation de 300 personnes contre le mur de la ségrégation. Au cours de leur manifestation, une action collective permet de déplacer un des blocs de béton du mur, ouvrant ainsi une brèche permettant le passage d'une personne. En fin de manifestation, pour répondre aux nuages de gaz les accueillant aux proximités de la clôture, les manifestants brûlent des pneus et jettent des pierres. Voilà, je trouvais ça chouette de mettre un petit peu tous ces faits en série. C'est plein d'infos qui sont sur le site du coup du collectif Anarchist Against the Wall, qui passe au squat mardi 29 septembre dans la soirée. Et maintenant, je vais essayer de présenter un peu plus globalement du coup qu'est-ce que c'est que ces Anarchist Against the Wall. Sur leur site, ils s'autodéfinissent comme un collectif d'anarchistes luttant contre toute forme de ségrégation, d'apartheid et d'incarcération sociale et politique. Comme son nom l'indique, ce collectif lutte contre la construction du mur que le gouvernement israélien a débuté depuis 2002 entre la Cisjordanie et Israël. Ce mur dont on parle, c'est un tracé de 650 km de long, composé de murs de 8 à 12 mètres de haut, et suivant les endroits de barblés plus clôture électrique encerclant une bande de terre de 40 à 100 mètres de longueur, le tout vidéosurveillé et encadré par l'armée israélienne. Ce mur a pour but isoler et encercler les territoires palestiniens en 5 enclaves contrôlables facilement. Si j'étais pas déjà entouré de nazis, je dirais que c'est un bon truc de nazis. Le gouvernement israélien le présente comme une barrière de défense pour protéger la population civile. Le collectif anarchiste contre le mur entend dénoncer cette escroquerie sécuritaire empoitant la logique coloniale du gouvernement israélien qui, avec la construction du mur, s'approprie de façon illégale des terres et ça, au-delà de la ligne verte. Enfin, pour finir, pour vous mettre un petit peu dans le bain avant mardi prochain et vous donner quelques clés d'infos avant d'écouter l'exposé du camarade israélien qui viendra au squat, un petit historique de la lutte contre le mur. Elle a commencé en 2003, et c'est en 2003 que le collectif des anarchistes contre le mur ont rejoint les luttes locales des villages palestiniens concernés par la construction du mur. L'action du collectif des anarchistes contre le mur va être pas mal médiatisée par les médias israéliens, notamment lors d'une manifestation en 2003, lorsque la police tire sur un des activistes qui tentait de sectionner le grillage de la barrière de séparation. Cette action frappe la conscience populaire israélienne, jusqu'alors indifférente à la construction du mur. Au cours de l'année 2004, c'est une véritable intifada du mur. Dans toute la Cisjordanie, des villages affectés par la trajectoire du mur se révoltent et se structurent en comités locaux de résistance, manifestant quasiment tous les jours. C'est à partir de 2005 que les anarchistes contre le mur se joignent à la lutte des comités populaires des villages de Bilin, à l'ouest de Ramallah, d'Almasara et Ertas, au sud de Bethléem, ou encore de Beit Oumar, au nord d'Hébron. Avec la présence de médias, d'internationaux et d'autres mouvements israéliens solidaires, ils essayent de renforcer le rapport de force mis en place par les comités populaires des villages face à l'armée. L'exemple de la lutte de Bilin est exemplaire, puisque depuis janvier 2005 s'y déroule une manifestation tous les vendredis qui fréquemment se termine pierre contre grenade, tenant ainsi tête à l'armée palestinienne. En tout cas, cette lutte des habitants et habitantes a permis d'empêcher la construction planifiée de colonies sur les terres de Bilin, et ils ont même obtenu que la Haute Cour de justice israélienne ordonne la démolition de colonies en construction. Voilà, comme quoi la lutte paye. Et il faut quand même souligner qu'en juillet dernier, les habitants et habitantes de Bilin ont dû faire face à de violentes descentes nocturnes de l'armée israélienne pour arrêter des manifestants et terroriser la population. C'est pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, les anarchistes contre le mur restent plus que jamais investis dans la lutte aux côtés des comités populaires locaux. Du coup, pour rendre leur action efficace, ils appellent à un soutien financier pour payer avocats, matériel et transport. C'est un peu un des objectifs de la tournée, je crois. Et c'est aussi dans cette optique, mais c'est aussi pour visibiliser et expliquer leur action, que du coup, un militant israélien du collectif anarchiste contre le mur passera notamment mardi prochain à Saint-Étienne, à la maison occupée rue d'Enfer Rochereau, en espérant que ce petit exposé vous aura mis suffisamment l'eau à la bouche et vous aura donné 2-3 informations et donné l'envie de venir mardi prochain à 8h30 au squat. On s'y retrouve, ça va être cool.
Ok, ben l'émission va toucher à sa fin. Donc je rappelle que c'était le numéro 0. Que c'est tous les un jeudi sur deux, donc le prochain ce sera dans 2 semaines à midi. L'émission sera rediffusée à 17h comme chaque fois. Je rappelle l'adresse du site internet du numéro 0, c'est http://lenumero0.net, lenumero0.l'autre.net. Vous pouvez nous contacter, par exemple nous donner des infos ou nous proposer des participation à cette émission, donc par email, c'est émission radio, tout attaché sans accent toujours, @fastmail.net, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ok.
Ou alors vous écrivez à la radio directement.
Oui, vous pouvez écrire postale. À la radio. L'adresse postale, c'est donc Radio Dio, 14 bis rue de Roubaix, 42100 Saint-Étienne. Et comme ça, ça devrait arriver. Ouais. Et donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos informations. On va finir l'émission en écoutant Nikmat Olalim. Donc, Nikmat Olalim, c'est un groupe de punk israélien et qui sont dans la même démarche que les anarchistes contre le mur. C'est-à-dire que eux, ils... Un de leurs objectifs par leur musique, c'est de critiquer les pratiques de leur gouvernement, de parler de comment ça se passe dans la société israélienne et de dénoncer l'occupation et les agressions de l'État israélien sur les territoires palestiniens. Voilà, donc la chanson qu'on va s'écouter, elle s'appelle « The Complete Destruction of Israel ». Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, parce que on dit souvent, ah oui, ce conflit, c'est compliqué, etc. Et je pense que mardi soir, Donc mardi 29 à partir de 19h, 19h30 au 10 avenue d'Enfer Rochereau, ce sera une bonne occasion pour discuter de tout ça. On a bien fait la pub.
Ouais. Bon, on peut faire la pub pour les postiers qui sont en grève contre la privatisation.
Oui, voilà, dont on avait déjà parlé. Et voilà, donc nous on se retrouve dans 15 jours, jeudi, je sais plus combien, à midi. Salut, on vous laisse avec Nicolas Tolalim. Et après, je pense qu'on écoutera Le Songeur et un peu de la musique pendant une demi-heure. Ciao, bonne journée.
Oh,